Oui, donc juste quelques instants pour vous expliquer où vous êtes, hein, parce que comme vous avez remarqué, le lieu est un petit peu étrange. On va d'ailleurs passer au milieu de l'après-midi dans une salle non moins étrange mais différente. Donc ce lieu, il est particulier parce qu'il a été fondé en 1794. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu beaucoup de réflexions depuis. Ça a été fondé par l'abbé Grégoire, ecclésiastique révolutionnaire. Et le projet fondateur du CNAM, c'est d'apporter le savoir au peuple. Donc c'est une institution qui certes est vieillotte, mais a également une riche histoire. Et cette histoire, elle a traversé les siècles au sens où en début du XXe siècle, il y a eu par exemple une chaire qui a été confiée au sociologue Eugène Fournière, qui était consacrée aux associations ouvrières. Mais il faut bien le dire, cette histoire, elle a aussi été recouverte par ce qui a dominé pendant toute une période ici, c'est-à-dire le scientisme et le positivisme, hein, qui ont quand même été les référentiels privilégiés. Et donc on est dans une période dans laquelle on essaye de renouveler peut-être les approches au sein du CNAM pour renouer avec son histoire d'une certaine façon. Et c'est dans ce cadre-là que l'on avait entamé il y a déjà un certain nombre d'années avec Opal, mais aussi avec l'UFISC, un certain nombre de rencontres. Je pense à la rencontre qui a eu lieu en 2007 dans ce lieu, qui avait été consacrée à la présentation et à la discussion de cet ouvrage pour une autre économie de l'art et de la culture, qui avait été coordonnée par Bruno Collin et Arthur Gauthier, mais aussi auquel avait largement participé Shirley Harvey, qui maintenant travaille à la chaire, mais qui avait été l'une des personne au centre de cette réflexion menée à l'époque au sein du FISC. Donc on a voulu essayer de faire vivre une problématique d'économie solidaire au CNAM, en particulier, mais pas seulement, à travers tout un ensemble d'émergences culturelles qui nous semblaient fort intéressantes. Et enfin, après quelques années d'efforts, nous avons réussi à ce que soit créée en janvier 2015 la chaire d'économie solidaire. Donc une chaire au CNAM, c'est un peu particulier, parce que quand on parle de chaire dans d'autres universités, généralement, c'est des instances qui sont financées par des sponsors et des mécènes. La chaire au CNAM, comme au Collège de France, a un statut particulier, différent du statut universitaire habituel. Et l'une de ses caractéristiques, c'est d'une part qu'une chaire peut intervenir sur l'ensemble du territoire national, mais aussi qu'elle a trois missions: recherche, formation et diffusion de la culture scientifique. Et c'est ça, par exemple, qui nous rapproche des universités brésiliennes, qui ont aussi ces trois missions, qui sont des missions très articulées, alors qu'en France, c'est une exception. Donc, juste pour vous dire encore une seconde, ce que l'on fait dans ces trois champs. Au niveau de la formation, donc on a essayé de prendre appui sur ce qui avait été travaillé avec Opal et l'UFISC pour introduire des formations qui sont avec des focalisations sur la dimension culturelle, mais au sein d'un certificat de spécialisation que Shirley anime et qui est consacré à l'innovation sociale et l'économie sociale et solidaire de manière générique, avec un aspect culture, mais avec la volonté d'avoir une approche intersectorielle, de couvrir les différents aspects de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui. Parce que d'une certaine façon, tout le monde parle d'économie sociale et solidaire, mais ça reste assez flou de quoi il s'agit vraiment. Et donc, cette formation a cet objet-là. Il y a une formation qui se met en place qui est plus une formation d'accompagnement aux porteurs de projets. Et puis, depuis 2 ans, il y a un master innovation sociale et économie sociale et solidaire qui est aussi fait ici et qui est un master professionnel. En termes de recherche, il y a une ouverture internationale qui est assez importante pour nous. On travaille beaucoup, comme je l'indiquais, avec nos collègues d'Europe, mais aussi d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud. On vient d'ailleurs de publier un ouvrage en anglais sur les approches de la gouvernance associative et comment c'est différent dans le monde anglo-saxon et dans d'autres mondes, et comment le dialogue interculturel nous permet d'enrichir justement la thématique de la gouvernance par rapport à la manière dont elle avait été formatée dans le débat anglo-saxon qui marque encore beaucoup l'ensemble du débat international. Et puis on vient de finir, j'y pense là, parce qu'il y a un chapitre particulièrement stimulant, me semble-t-il, de Philippe Berthelot, un ouvrage sur association et action publique qui a été co-rédigé par des acteurs et des chercheurs. Et ça, c'est l'un de nos soucis, c'est d'essayer de produire des documents qui soient des documents co-rédigés par des acteurs et des chercheurs, à l'encontre justement des préconisations positivistes selon lesquelles il ne faudrait surtout pas que les mondes se mélangent. Nous, on pense qu'il y a des connaissances qui viennent de ce mélange à condition qu'ils soient structurés, travaillés, approfondis. Et donc, en septembre, sort cet ouvrage « Association et action publique » dans lequel il y a un chapitre spécifiquement consacré aux associations culturelles qu'a rédigé Philippe Berthelot. Et donc, il y a une quinzaine de secteurs d'activité qui sont couverts pour ce qui concerne la France, mais aussi d'autres pays qui permettent de voir où on en est dans les rapports entre associations et actions publiques dans un monde qui se caractérise, et c'est ça qui nous a frappé en relisant les textes néolibéraux, c'est que le projet néolibéral auquel nous sommes tous confrontés aujourd'hui n'est pas un projet économique. Si on relit les textes fondateurs de Friedman et d'Hayek, c'est un projet de limitation de la démocratie. Et je crois que c'est pour ça que les associations aujourd'hui ont un rôle particulier dans la société, et c'est pour ça qu'elles sont soumises à des tensions très fortes, et on souhaite, à travers cet ouvrage, modestement s'inscrire dans ce débat, mais aussi dans les formes de résistance qui se mettent en place aujourd'hui et qui nous semblent indispensables au niveau européen comme au niveau mondial. Enfin, sur l'exemple de ce qui se passe au Brésil, on a essayé de mettre en place des modalités de diffusion de la culture scientifique qui sont un petit peu pour renouer avec cette histoire que j'évoquais au départ, c'est-à-dire une université populaire qui se réunit tous les deux mois, où on essaye de faire dialoguer ensemble acteurs, chercheurs et responsables publics. Trois mondes qui, comme je l'indiquais, n'ont peut-être pas assez dialogué et ne doivent pas se laisser enfermer dans leurs contraintes respectives. Et puis, on essaye aussi, avec les étudiants du master, de mettre en place un incubateur d'économie solidaire ici, en liaison avec un incubateur